Let us remain standing just a moment for prayer. Let us bow our heads now.
Nous inclinons maintenant nos têtes en prière. Notre Père Céleste, nous apprécions comme un grand privilège de pouvoir nous tenir ici parmi les sauvés et de pouvoir chanter ces anciens cantiques dans l'Assemblée. Seigneur, j'ai la foi. Nous voyons que la foi qui a été transmise à nos pères s'est perpétuée à travers les âges dans tes enfants. Comme nous l'avons entendu dans le chant, nous sommes en route pour Cana. Nous prions, Père, s'il y a ici aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas encore pris cette décision, qui n'a pas encore atteint le stade où il ne peut que croire, où il peut croire la parole. Je demande que ce soit maintenant qu'il prenne cette décision finale, qu'il reçoive Christ comme sauveur et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Nous te remercions également pour le groupe d'hommes d'affaires du plein évangile qui sont ici, car eux aussi défendent cette pensée que ce plein évangile doit être prêché. Nous te remercions de ce qu'il y ait encore des hommes d'affaires qui prennent le temps de te servir et d'en parler aux autres, qui utilisent leur argent et leur temps pour aider les autres sur le chemin afin qu'ils deviennent eux aussi des citoyens du royaume de Dieu. Nous te remercions pour les frères prédicateurs qui sont ici aujourd'hui, ceux qui maintiennent les flambeaux dans ce monde de ténèbres, afin que le chemin du sentier vers la gloire reste éclairé. Père, bénis tous les membres de l'Église du Dieu vivant, ainsi que les nouveaux venus. Et pendant que nous sommes sur le point d'ouvrir la Bible, tu veux bien la distribuer selon nos besoins. Et lorsque le service divin sera terminé et que nous rentrerons chez nous, que de nouveaux enfants soient nés dans le royaume de Dieu. Peut-être il y en a-t-il ici ce soir qui sont très malades et qui ont besoin d'être touchés par toi, le grand médecin. Qu'ils le reçoivent, Seigneur, accorde-le. Nous te donnons la louange en toute humilité, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'un des plus grands moments de ma vie que de pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu pour lui parler. Jésus-Christ est la joie de ma vie et ce qu'il représente pour moi. Et ensuite, j'ai le privilège de partager cette joie avec d'autres qui ne l'ont pas encore reçue. J'ai vécu autrefois sous la réputation d'être un jeune prédicateur, mais c'était il y a longtemps. Très souvent ou longtemps, j'ai pu y recourir, mais maintenant, je suis devenu le vieux prédicateur. Chaque jour, il a mis un nouveau chant dans ma bouche, et chaque jour est plus beau que le jour précédent. Et lorsque je regarde le coucher du soleil et que je sais que ma vie s'achève lentement, Christ devient pour moi plus précieux jour après jour. J'ai le privilège de me tenir devant beaucoup de gens et puis aujourd'hui ici devant beaucoup d'hommes d'affaires pour pouvoir leur parler de ce qui compte plus pour moi que n'importe quoi dans le monde. Là, je voudrais parler sur la vie éternelle. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus grand à quoi je puisse penser que la vie éternelle. Si vous êtes jeune, vous pensez, oui, tant que vous êtes encore des enfants, vous jouez à ceci ou à cela. Les petites filles ont leurs poupées, puis vient l'école, et ensuite vient la question de savoir qui sera votre mari, et puis il faut payer la maison, et puis vous commencez à être vieux. Mais je suis si heureux qu'il y ait quelque chose de vrai, de réel, quand tout cela sera terminé ici, qui nous importe plus que tout le reste. Tout le reste est nécessaire à cette vie ici. Il est important de savoir qui est le père, la mère de nos enfants, et ainsi de suite, et qu'ils soient éduqués. Mais tout cela passera. Mais la vie éternelle reste. Et c'est la plus grande chose. Cela m'a satisfait quand j'étais jeune. Et cela a été ma satisfaction à l'âge moyen. Et quand ma vie sera terminée, je serai heureux de rencontrer celui qui a rendu ma vie heureuse. Maintenant, frère Tony, le président ici du chapitre, je suis heureux d'être avec lui et avec frère Carl Williams et d'autres qui sont présents ici. Il y a ici beaucoup de représentants de différentes villes et d'assemblées. J'ai parlé une fois, je crois que c'était à Little Rock, Arkansas. C'était dans un auditorium et il y avait là un homme qui avait été guéri. Il marchait depuis quelques années avec des béquilles et il vendait des crayons et des petites choses dans la rue. Il était complètement paralysé et ne pouvait pas se déplacer tout seul. Et puis, un soir, il est venu à la réunion, puis il a rejoint la ligne de prière et il a été guéri. Le lendemain, il portait ses béquilles sur le dos et descendait la rue en sautant et en témoignant. Alors que je parlais le soir suivant, il m'a interrompu et a dit, « Frère Branham, écoute-moi, je suis un peu hors de moi. Quand tu as parlé, j'ai pensé que tu étais nazaréen, car c'est ce qu'il était. Et puis, j'ai vu tant de pentecôtistes, a-t-il dit. Et quelqu'un d'autre m'a dit que tu es un pentecôtiste. Et puis, j'ai entendu dire que tu avais été ordonné dans l'église baptiste. Je suis tout confus. Qu'est-ce que tu es juste? Qu'est-ce que tu es au juste? J'ai répondu, c'est très simple. Je suis un nazaréen baptiste pentecôtiste. Regardez, je suis tout cela. Quand je suis venu chez les pentecôtistes, il y a quelques années, le Seigneur m'a envoyé chez eux, car c'est à cela qu'il m'a destiné à prier pour ses enfants malades et les communautés religieuses dénominationnelles avec lesquelles j'étais autrefois ne croyaient pas à la prière pour les malades, à la guérison divine. Pour elles, c'était étranger. Et elles m'ont dit, tu vas jouer le rôle d'un saint maintenant. Peut-être que je le suis devenu aussi, je ne le sais pas. Mais je suis très heureux comme je suis. Quelqu'un m'a dit que j'avais perdu la tête. J'ai dit, bon, laissez-moi seul parce que je suis plus satisfait maintenant comme ça que je l'étais avant. Je me sens ainsi très bien. C'est la joie, une joie inexprimable. Mais quand je suis arrivé chez les pentecôtistes, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul groupe parmi eux. Et puis, j'ai dû découvrir qu'il y avait tant de groupes et de divisions comme j'en avais déjà fait l'expérience parmi les baptistes et les autres. Je ne voulais prendre parti pour personne, mais être parmi eux tous et dire que nous sommes frères. Et cela a toujours été mon attitude. Voyez, la grande église du Dieu vivant est unie dans la prière et dans la proclamation. Et les hommes d'affaires du plein évangile, ils ont fait leur organisme. Ils ne sont pas une organisation, mais un organisme. Et ils ont inclus tous les groupes et m'ont donné la place. Ils m'ont pris comme sous leur aile. Et je suis tellement heureux de cette opportunité d'être avec eux. Car ici, je peux exprimer ma foi à tous les groupes. Et c'est quelque chose de grand pour moi. Je n'appartiens à aucune organisation, mais je suis avec eux. Où que j'aille, que ce soit en Afrique ou ailleurs, j'étais récemment en Afrique du Sud, c'est là que le Seigneur nous a donné l'un des plus grands rassemblements que nous ayons jamais eu. C'était en Afrique du Sud, où 30 000 tribus ou personnes appartenant à des tribus qui étaient presque nues ont consacré leur vie au Seigneur. Et le lendemain, Sidney Smith, le maire de la ville, m'a appelé à l'hôtel et m'a dit, « Regarde par ta fenêtre ce qui se passe. » Il m'a dit, « Dépêche-toi, marche vite, regarde dehors. » Et il y avait sept camions anglais pleins de béquilles et chaises roulantes et des barres et ainsi de suite que les gens avaient chargés sur lesquels ils s'étaient allongé auparavant et avait utilisé, et puis les guéris marchaient derrière les mains levées avec le chant que nous venons de chanter. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. J'ai dit, ô Seigneur, c'est un jour dont je me souviendrai. Là-bas, nous avons eu 3 jours et nous avons dû repartir. Mais pendant ces 3 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais c'est arrivé grâce au miracle que le Seigneur a fait sur la plateforme. Un miracle en particulier l'a provoqué. Un garçon qui était tellement estropié et qui marchait à 4 pattes contre un chien, comme un chien a été guéri sur la plateforme. Et ces gens qui se battaient auparavant en tant que tribu étaient en paix après ce service divin et se sont mis les bras sur les épaules en chantant « Crois seulement ». Oh, cet ancien et glorieux évangile n'a jamais perdu sa puissance. La puissance de résurrection de Jésus-Christ se manifeste. Il m'est de plus en plus précieux, jour après jour. Maintenant, si vous êtes ici aujourd'hui en tant qu'homme d'affaires ou qui que vous soyez, laissez-moi vous dire, consacrez votre vie au Seigneur si vous ne l'avez pas encore fait. Quelle que soit l'assemblée à laquelle vous appartenez, ici, cet organisme a pour titre d'homme d'affaires du plein évangile. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, prêtre, catholique, qui que vous soyez, c'est Jacob qui a creusé une source, un puits, puis les Philistins l'ont chassé et il en a creusé un deuxième. On l'a chassé à nouveau. Il en a creusé un autre et il a dit, il y a de la place pour nous tous. Voyez, nous serons heureux de vous avoir ici à Tucson ou que ce soit pour être en communion avec nous. N'oubliez pas la réunion de Phoenix, je sais que nous ne devons pas faire de publicité sur la plateforme ici car ce n'est pas autorisé, mais ce sont les mêmes réunions. Je vais prêcher pendant 4 jours à Phoenix et prier pour les malades. Il me donne maintenant les dates. Il me donne maintenant les dates. Pendant 4 jours, nous aurons des réunions là-bas. Et nous attendons à ce que Dieu bénisse pour vous de Tucson. Dimanche soir prochain, je prierai et parlerai à l'église des assemblées de Dieu chez le frère Arnold Max. Je prierai pour les malades et je prêcherai. Maintenant, que les bénédictions de Dieu reposent sur vous tous. Si vous voulez ouvrir la Bible avec moi, je voudrais me dépêcher à venir à la parole et ne pas vous retenir trop longtemps. Je voudrais lire un extrait de Romains chapitre 8. Nous commençons par le verset 28 jusqu'au verset 32. Romains 8, du verset 28. Or, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit précisément le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire céleste. Que faut-il en conclure? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je voudrais parler du thème du pardon. Ici, la Bible dit que tout nous a été donné en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler de tout, mais il y a une chose que nous voulons souligner, c'est le pardon. que nous avons reçue. C'est une parole glorieuse que d'avoir reçu le pardon. Car nous sommes tous coupables, nous avons tous péché et manqué de la gloire que Dieu confère. En son Fils, Dieu nous a pardonné nos fautes et nos péchés. Et ce pardon me rappelle une histoire que j'ai lue pendant la guerre, pendant la Révolution. Il s'agissait d'un soldat qui avait fait quelque chose et qui a été reconnu coupable au tribunal. Il a abandonné son poste pendant les combats, ce qui a causé des dommages, et il devait être fusillé. Et son collègue en a tellement souffert qu'il s'est tourné vers le président Lincoln. Et Lincoln était un homme bien et chrétien, et il est tombé sur sa face et a dit, « Monsieur Lincoln, président des États-Unis, gentil monsieur, je demande la miséricorde de Dieu. Je sais que tu es chrétien, que tu as un cœur doux et que tu as pitié de ceux qui sont en faute. Mon ami aurait dû rester à son poste, mais quand les obus, ont tiré que les canons ont retenti, il a eu peur et s'est enfui. Et il a dit, Monsieur Lincoln, ce n'est pas ce qu'il voulait, ce n'est pas ce qu'il avait prévu, mais maintenant il doit mourir, être fusillé. Il n'y a qu'une seule façon pour qu'il soit sauvé, c'est que tu le décides et que tu le signes. Mr. Lincoln n'a pas réfléchi longtemps, il a pris un papier et a écrit, « Moi, Abraham Lincoln, je pardonne à cet homme, il ne doit pas mourir, il a signé Abraham Lincoln. » Et l'homme qui était venu le voir, le béni et alla voir son collègue dans la cellule de prison et dit, « J'ai ton pardon ici. » Il sortit le papier et l'homme dit, « Ne te moque pas de moi, je dois mourir. » Il dit, « Je ne crois pas ce que tu me dis là. N'importe qui peut signer Abraham Lincoln et mettre ça dessus. » Mais il a dit, « C'est la signature du président. Tu es libre, tu es pardonné. » Il a refusé et a dit, « Ça ne peut pas être vrai. » Et il a été fusillé plus tard. Et cela s'est produit dès le lendemain. Et ensuite, le procès a de nouveau eu lieu pour savoir pourquoi cet homme auquel le président avait pardonné avait été abattu. Et ce fut la décision. Un pardon n'est pas un pardon à moins qu'il ne soit accepté comme un pardon. Aujourd'hui, j'ai lu, Dieu nous a tout donné, le pardon et tout ce dont nous avons besoin. Mais il faut l'accepter. Le simple fait de lire ne suffit pas que vous avez reçu le pardon. Vous devez l'accepter comme votre pardon, car Dieu a fait mourir son Fils à votre place et vous l'acceptez. Vous êtes libéré de la culpabilité du péché. Vous voyez, c'est un pardon de Dieu pour vous. Ce n'est pas seulement que vous le recevez psychologiquement ou par un enseignement ou par une sensation quelconque que vous pensez avoir fait quelque chose de juste ou que vous avez appris une quelconque profession de foi. Non, c'est un dégagement de la culpabilité, une libération de la culpabilité. Il ne reste plus de culpabilité. La Bible dit que nous sommes justifiés et qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 1. Si donc la délivrance du péché, de la culpabilité, a eu lieu, il n'y a plus de désir pour le péché, ni dans l'homme, ni dans la femme, ni dans personne. Vous êtes devenu de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Vous avez tourné votre attention vers Jésus-Christ, où il siège à la droite de la majesté de Dieu. Vous voyez, vous êtes libre. Aucun prêtre n'a besoin de le lui dire, aucun prédicateur non plus, il sait intérieurement au fond de son cœur qu'il a accepté le pardon comme un don de Dieu, que Dieu a envoyé par Jésus-Christ. Quelle sensation d'être libéré du péché! On m'a dit, lorsque la proclamation a été signée à l'époque que le temps de l'esclavage était terminé en Amérique, et ce matin-là, au lever du soleil, à cette date précise, le temps de l'esclavage en Amérique devait être terminé. Et dans l'article, j'ai lu que des gens étaient montés sur les plus hautes montagnes pour voir le lever du soleil le plus rapidement possible, pour voir leur liberté et pour remercier pour cela. Ils attendaient ce jour pour savoir, alors nous sommes libres. Et il a été dit dans cette proclamation qu'ils seront libres tel et tel jour avec le lever du soleil. Et ils ont gravi les plus hautes montagnes pour assister au lever du soleil de ce jour précis. Oh, si seulement les pécheurs, si seulement nous nous efforcions autant d'entrer en présence de Dieu pour assister au lever du soleil, pour recevoir le pardon. Il y a dit que des jeunes gens sont montés jusqu'au sommet de la montagne et là-haut, ils ont vu le lever, ils ont vu le soleil en premier, ils ont crié vers le bas aux autres, nous sommes libres, le soleil sort. Vous voyez, les hommes sont vendus au péché, ils y sont soumis, mais le Fils de Dieu est ressuscité dans les morts pour notre justification. Nous devrions le crier sur toute la nation. Nous sommes libérés du péché et de la culpabilité. Le pardon nous a été accordé par Golgotha. Il n'y a rien de plus grand qui puisse être donné à l'humanité. Les hommes ont péché dans le jardin d'Éden, ont franchi le grand fossé et ont été séparés de l'Éternel. Les hommes étaient d'abord éternels avec Dieu. Ils n'avaient pas de maladie, pas de souffrance, pas de mort. Les hommes ne sont pas faits pour mourir. Et l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Pas pour les hommes. Car ils ont été créés pour être des fils et des filles de Dieu. Mais lorsque les hommes ont péché et ont franchi cette ligne de Dieu qui sépare le bien du mal, ils se sont séparés de Dieu et n'ont eu aucune possibilité de revenir. L'humanité était complètement perdue. Ils ne pouvaient pas revenir à cause du péché. Mais Dieu, riche en miséricorde, a trouvé un sacrifice pour eux. Car il a été dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Voyez, la sainteté de Dieu l'a rendu nécessaire à cause de sa parole et il doit tenir sa parole pour avoir un sacrifice à leur place. Dieu a révélé son amour à l'humanité. Ils étaient séparés de lui car il était en communion avec ses enfants. C'était une situation déchirant le cœur pendant tout le temps. Mais sa parole disait, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Voyez, nous pouvons être sûrs que tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. Il est infini, il est éternel. Sa première décision est une décision éternelle. Il n'a jamais besoin de la reprendre et il ne peut pas apprendre par cela. Il est parfait dès le début. Ce que Dieu dit est parfait et ne peut être changé. C'est une décision parfaite. De la manière dont Dieu agit ou traite les siens, il doit toujours s'en tenir à ce qu'il a toujours fait. S'il a ouvert la voie du salut aux hommes, comme il l'a fait au début, cela doit rester ainsi pendant tout le temps. Si Dieu a promis la guérison aux malades sur la base de la foi, cela doit toujours rester ainsi. Il ne peut pas revenir en arrière. Il doit rester le même. Or, Dieu a accepté le sacrifice pour les hommes dans le jardin d'Éden, offert à leur place. Et à l'époque, un sacrifice a été offert pour eux. Le sang a été versé par l'animal qui a été offert. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer en communion avec Dieu que par le sang versé de l'agneau de Dieu. Ce n'est que par ce moyen qu'il reprend ses enfants. Il n'y a pas d'autre prix. Il n'y a rien d'autre. La première décision de Dieu est juste. Elle est éternelle et vraie. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Vous voyez, à l'époque, la seule façon et le seul moyen pour Dieu d'entrer en communion avec les hommes, c'était par l'agneau sacrifié, par le sang versé. Si nous mourons ici maintenant, naturellement, bien sûr, cela ne signifie pas que nous sommes morts. Mais Jésus a dit, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Voyez, cette mort dont il est question signifie être séparé de Dieu. Ici, il s'agit d'une mort physique. Mais, quelque part, nous continuons à vivre. Nous passons simplement d'ici à une autre dimension. Mais, ce n'est pas la mort comme certains le pensent que rien ne continue à vivre. Vous savez, quand la fille de Jairus est morte et que Jésus a dit qu'elle n'était pas morte, mais seulement endormie, il savait qu'elle était morte. Mais Jésus a dit, elle dort et je vais la réveiller. Et elle est revenue à la vie. Eh bien, depuis Adam jusqu'à maintenant, les hommes ont essayé de créer leur propre substitut. Ils ont fait de leur mieux. Ils veulent faire mieux que Dieu. C'est dans l'homme. Les gens essaient toujours de s'aider eux-mêmes et de faire quelque chose de différent. Ils veulent mettre leurs propres idées dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes si divisés aujourd'hui. Le peuple chrétien dans le monde est tellement divisé, séparé par des barrières de différentes sortes. Pourquoi? C'est parce que les gens ont mis leurs propres idées dans le plan de Dieu. Voyez? Mais Dieu a un plan. Et dès le début, dans le jardin d'Éden, les pensées des hommes ont été révélées. Adam s'est fait des tabliers de figuiers ou s'est couvert de feuilles de figuiers pour lui-même et pour sa femme. Vous voyez, ils ont tout essayé à travers toute la civilisation. Ils ont toujours essayé quelque chose. Mais il n'en reste pas moins que Dieu n'accepte les siens qu'en raison du sang versé sur le tronc de la croix à Golgotha. La formation a échoué. Plus nous sommes formés, plus nous nous éloignons les uns des autres. Vous voyez, nous avons essayé chacun à sa manière. Mais rien n'a fonctionné. La communion a été brisée. Seule la confusion s'est installée et ce qui est encore là. Mais le plan de Dieu demeure. C'est sous le sang versé que Dieu nous rencontre. Ce sang doit être utilisé. Déjà à l'époque d'Israël, quand ils ont dû tuer un agneau et peindre les montants de la porte, voyez, Dieu avait exigé que ce signe soit visible à la porte dans Exode 12. Peu importe ce que les gens pensaient, c'était l'ordre de Dieu qu'il soit israélite, qu'il soit circoncis, qu'il croit en Jéhovah. Rien de tout cela ne remplaçait cela, car l'ordre était là. Le sang doit être peint sur les montants de la porte. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que chaque chrétien doit faire l'expérience de la puissance du sang de Jésus-Christ pour être juste, pour être purifié, peu importe ce qu'il a d'autre. Regardez, il doit être là comme à l'époque d'Israël. Le sang était visible, quelle que soit que la maison ou le peuple soit religieux. Et comme ils éduquaient leurs enfants et assistaient au service divin et faisaient toutes les choses que Dieu demandait à l'heure dernière, à la dernière heure où il était question de vie ou de mort, le sang devait être peint sur les montants de la porte. Et le sang indiquait qu'une victime innocente avait donné sa vie pour eux. Et le sang était peint là comme un signe sur la porte que cette maison était en sécurité sous le sang versé. C'était un type, une image. Regardez ici, dans ces derniers jours, nous arrivons à l'heure où Dieu libère son peuple. Ça, je le crois. Et aussi certainement que le sang a été peint là en souvenir, le signe doit être là aujourd'hui et est nécessaire. Eh bien, il ne pouvait pas peindre le sang du Seigneur Jésus quelque part. Non, non, non. À l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était le sang d'un agneau qui était peint sur les montants de la porte dans Exode 12. Mais la vie qui était dans cet agneau ne pouvait pas revenir sur l'homme, car l'animal n'a pas d'âme. La vie ne pouvait donc pas revenir sur celui qui venait adorer Dieu. Mais maintenant, lorsque le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été versé à Golgotha, et c'est par le sang que nous sommes rachetés et cette vie, c'est Dieu lui-même qui revient par le Saint-Esprit sur le croyant en ces derniers jours. Et quand Dieu verra cela, il passera en épargnant. Que vous soyez homme ou femme, vous devez accepter la mort de Jésus-Christ pour vous à votre place. Et le Saint-Esprit rend ensuite témoignage. Vous pouvez dire, je l'ai accepté, et vous vivez encore dans le monde et faites ce que fait le monde. Vous n'aurez alors aucune preuve que cela s'est produit. La preuve du Saint-Esprit doit se manifester dans votre vie. C'est un impératif pour chaque homme, pour chaque femme, en ces derniers temps, comme un signe. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, et il ne verra pas le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. C'est le programme de Dieu, son sang. C'était le sang dans l'Ancien Testament, le sang dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux, une image sur le sang de l'agneau qui allait être versé. Mais l'adorateur s'en allait avec le même sentiment de culpabilité que celui avec lequel il était venu. Mais maintenant, lorsque l'adorateur est purifié et libéré du péché, il n'a plus de désir, plus d'envie de péché. Il est passé de la mort à la vie. Il est devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Il a la vie éternelle. L'Esprit de Dieu repose sur lui. Et la vie de Jésus-Christ lui-même se manifeste par lui. Et la Bible dit, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Dieu attend l'heure où l'Église entrera dans cet état. Peu importe qui vous pouvez être, à quelle assemblée vous avez pu appartenir. Ce signe de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection doit être révélé. Il a dit, un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et je me révélerai à vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Souvent, j'arrive chez des chrétiens, ils disent, nous sommes chrétiens. Ils pensent même être sanctifiés. Ils ont peur de dire un amen. Ils ont peur de chanter les psaumes, les chants de Sion. Je voudrais être parmi des gens qui n'ont pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Non, quelque chose leur est arrivé. Cela signifie plus pour eux que cette vie. C'est la vie éternelle, car ils ont accepté ce que Dieu a donné à leur place. J'ai prié pour quelqu'un avant le service divin. Et certains ont prié, puis on a chanté. Ensuite, j'ai entendu les mains battre. Et j'en ai même vu qui allaient et venaient et se déplaçaient au rythme J'étais critique à l'égard de cela au début, lorsque j'ai vu cela dans les assemblées de Pentecôte il y a de nombreuses années. Je pensais que c'était absurde. Mais ensuite, j'ai lu la Bible et j'ai trouvé que si l'on dansait dans l'esprit, il se passait quelque chose. Le diable a imité et copié avec le rock and roll et tout. Mais chaque fois que Dieu a donné une victoire, le peuple de Dieu a dansé. À l'époque, quand la victoire sur Goliath a été donnée, alors les Israélites ont rencontré David et ils ont acclamé la victoire. Lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge et s'est retrouvé de l'autre côté de la rive, Myriam a pris sa cymbale et a dansé. Et tous les autres ont dansé avec elle en esprit. C'était une vraie réunion de Pentecôte. Sinon, je n'en ai jamais vu d'autre. Mais la faute me revient. Je n'ai pas eu assez de victoire. Si vous avez la victoire de Dieu et que la preuve de Jésus-Christ s'est manifestée en vous, alors vous pouvez chanter comme le psalmiste de la Bible. Le psalmiste de l'époque, vous savez, David, quand il avait pris pour femme la fille de Saül, elle était bien un peu fière et pensait que toutes les choses devaient se faire dans l'ordre. Mais elle ne s'est pas rendue compte que la colonne de feu était avec le peuple d'Israël, que Dieu avait donné la victoire à David et qu'il avait des raisons de louer et d'exalter. Puis David revint avec l'arche de l'alliance du Seigneur et devant l'arche de l'alliance, David dansa et chanta les louanges à Dieu. Et la fille de Saül, elle en a été contrariée en quelque sorte et elle a pensé que le roi s'était comporté de manière inconvenante. Et David a dû dire, si tu n'aimes pas ça, fais attention maintenant. Et il a dû recommencer encore plus fort à jubiler en esprit et à remercier le Seigneur. Les autres, ils n'étaient pas d'accord. Mais ils étaient sous la malédiction. Je vous le dis, quand la vie de Jésus-Christ se manifeste dans l'Église et il n'y a qu'un seul point de communion, c'est sous le sang. Nous avons été séparés par des dénominations et ainsi parmi les pentecôtistes. Mais la Pentecôte originale est notre modèle. Personne ne peut le dire autrement qu'en disant que l'Église a été introduite et a commencé à la Pentecôte. Actes des Apôtres chapitre 2. Voyez, et tout au long de la Bible, quand le Saint-Esprit est venu sur les gens dans la Bible, quelque chose s'est passé. Permettez-moi de dire ceci. J'étais dans les pays païens et j'ai vu des Noirs parmi les Hottentots. Et j'ai parlé par l'intermédiaire de traducteurs. Beaucoup n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ. Et alors, je leur ai apporté la parole de Dieu. Et je vous le dis, quand j'ai prié pour eux, pour le baptême de l'Esprit, il leur est arrivé la même chose qu'à vous ici sous la puissance du Dieu Tout-Puissant. Que vous soyez noir, blanc ou rouge, cela n'a aucune importance. La même chose se produit partout où l'Esprit est répandu. Vous voyez, nous savons qu'il y a eu Nebuchadnezzar, qu'il y en a eu d'autres qui étaient de l'autre côté. Mais il y avait ceux qui étaient sous le sang, qui ont pris la bonne décision et qui savaient que quelque chose d'innocent est mort pour eux en tant que coupable. C'est encore le cas aujourd'hui. Voyez Job et d'autres. Job est probablement le livre le plus ancien de la Bible. Et bien que tout soit arrivé à cet homme, il est resté debout et ferme. Il savait qu'il avait fait ce que Dieu, Jéhovah, lui demandait. Abraham a fait de même et bien d'autres encore. Israël. Voyez, Israël ne pouvait être en communion que sous le sang versé. Voyez, les gens voulaient autrefois adorer à Jérusalem, mais le sacrifice a été offert là. Voyez, le sang était toujours versé. Aujourd'hui, nous avons tellement de formations dans cette nation et partout ailleurs. C'est hautement cultivé, on dirait. Nous avons toutes les avancées scientifiques et tout ce qui se passe. Ils peuvent envoyer des choses sur la Lune et faire tous les calculs, tout ce qu'ils font. Nous avons tous les programmes de formation de toutes sortes, mais ils nous ont tous éloignés davantage de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de se donner de tout son cœur à Dieu pour que la puissance du Dieu Tout-Puissant puisse se répandre, que notre volonté lui soit soumise pour qu'il puisse se manifester. Et alors cela s'accomplira. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. Christ l'a dit. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 16, 17. C'est une révélation, une manifestation de l'Esprit Saint que Dieu a accepté l'adorateur. Car c'est la même vie qui est manifestée par l'Esprit de Dieu. La même vie de Jésus-Christ lui-même. Dans le croyant, dans l'Ancien Testament, les Juifs qui ont offert le sacrifice le jour des expiations, ils ont dû le faire. Et ils pouvaient dire, voici le sacrifice que Dieu demande, exige. Et peut-être l'un était un agneau que quelqu'un a accepté que le sacrificateur l'offre. Et il va au lieu d'adoration, il sait que je suis un pécheur et maintenant il pose ses mains sur le sacrifice et ainsi il s'identifie à son sacrifice. Lévitique chapitre 1. Et ensuite, quand la gorge a été tranchée et que la vie, le sang est sorti, il sent encore la douleur venir sur cet animal. Le sang jaillit et il reconnaît que cet animal prend sa place. Et il repart justifié parce qu'il a fait ce que Jéhovah lui a demandé et exigeait de lui. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas une signature où dire « Oui, je viens à l'école du dimanche, je viens au service divin. » Ce n'est pas la promesse de donner telle ou telle somme d'argent en soutien, non. C'est de poser vos mains sur le sacrifice de Dieu. C'est recevoir le pardon. C'est savoir que Jésus-Christ, dans sa chair, a pris sur lui votre culpabilité et votre péché. Il est votre victime. Il est mort. Il est ressuscité. Vous êtes mort avec lui, enterré avec lui par le baptême, ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. Romains 6. Et si vous avez vécu et expérimenté cela avec sincérité et fait ce que Jéhovah demandait. Vous voyez, les Juifs auraient pu être justifiés car ils ont fait ce que Jéhovah a demandé et a exigé. Vous voyez, c'est ce qu'ils avaient exigé. Mais ensuite, c'est devenu une tradition familiale. Le jour de la réconciliation arriva. Et les Juifs avaient déjà fait ce qui était juste à l'extérieur, mais leur cœur n'y était plus. C'est devenu une tradition. La sincérité, la consécration n'était pas là. Le jour des expiations, ils montaient encore par famille entière en se disant, tout le monde le fait, nous devons le faire aussi. C'est là qu'est arrivé notre christianisme. C'est là que sont c'est arrivé, les mouvements pentecôtistes, c'est devenu une tradition. Voyez, nous ne nous identifions pas à notre sacrifice, à savoir que nous sommes morts avec notre sacrifice. Nous disons que nous sommes chrétiens parce que nous appartenons à une assemblée. Cela ne veut rien dire. Je vous le dis, vous devez être identifié. Vous devez avoir posé vos mains sur le sacrifice et l'Esprit de Christ doit être en vous et vous devez être en Christ jusqu'à ce que vous soyez pleinement des fils et des filles de Dieu. Mais où est la sincérité, la consécration? Aujourd'hui, c'est devenu un rituel comme cela l'était à l'époque que les gens pensent être chrétiens. Vous voyez, il y a peu de temps, j'ai demandé à une jeune femme dans la ligne de prière, es-tu chrétienne? Elle m'a répondu, je veux que tu saches que je suis américaine. Comme si cela avait un rapport avec le fait d'être chrétien. C'est bien d'être américain. Mais vous devez être né de nouveau pour être chrétien. Et à une autre femme, j'ai demandé, êtes-vous chrétien? Elle était tellement bouleversée, elle m'a dit, je veux que tu saches que j'allume une bougie tous les soirs, comme si cela avait un rapport avec Christ. Mais si le Christ lui-même et sa vie sont en vous, alors vous êtes identifié par cela à lui. Christ en vous. Il ne s'agit pas d'une appartenance à une assemblée, mais de l'authentique, du vrai. Alors, quand nous arrivons au service de guérison, quand vous voyez dans la série de prières, dans le discernement, combien de fois je dis aux gens, répentez-vous. Regardez où sont nos prières. C'est devenu la tradition. Nous nous agenouillons le soir et disons, Seigneur, bénis celui-ci et celui-là, bénis celui-ci et celui-là. Aide Jean à faire ceci et cela. Vous faites alors de Dieu un coursier. Vous ne lui donnez que des missions à accomplir. Dieu fait ceci et Dieu fait cela. Ce n'est pas ainsi que Jésus nous a appris à prier. Il a dit, si vous voulez prier, faites-le ainsi. Notre prière qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais nous pensons devoir dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est pourquoi l'Église s'est refroidie et le grand réveil qui est passé par le pays, par lequel des millions sont venus s'ajouter. Voyez, maintenant, ils ont de soi-disant expérience comme tradition au lieu qu'une repentance divine vienne sur eux, que quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, une humilité soit créée en vous, que vous ne puissiez pas vous reposer jusqu'à ce que Dieu se soit manifesté. Ce n'est pas l'adhésion à une croyance, mais la vie de Jésus-Christ lui-même en vous qui vous pousse à aller là où Dieu parle et bénit. J'ai parlé hier à un jeune homme et cela m'a rappelé l'époque où j'étais garde-chasse dans l'Indiana. Il y a tant de sources là-bas, des sources naturelles. Et une en particulier que j'aimais. L'eau jaillit si fraîche et précieuse. Je m'arrêtais là comme Moïse devant le buisson ardent. Et je dis, toi source, qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Tu jaillis si agréablement à chaque fois, que ce soit en été, en hiver, au printemps. En automne, quoi, quand je passe ici, tu jaillis. Es-tu si heureuse parce que le gibier vient s'abreuver en toi, parce que les lièvres, les cerfs et tout le gibier viennent, et la source, si elle avait pu parler, elle aurait dit non, pas ça. J'ai demandé, es-tu content parce que je bois ici? Non, aurait répondu la source. Vous pouvez tous boire, mais sans problème, mais pourquoi jaillis-tu si joyeusement? Tu émerges, tout simplement. Si la source pouvait parler, elle dirait, ce n'est pas moi. Derrière moi, il y a quelque chose qui me pousse à sortir. Il y a une puissance qui pousse l'eau à sortir. Il en est ainsi comme l'a dit Jésus. L'eau que je lui donnerai deviendra une source et jaillira dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Il s'est passé quelque chose dans l'adorateur. Il jaillit. La vie de Dieu lui-même est en lui. Mais maintenant, tout cela est devenu une tradition. Et le peuple d'Israël a observé les commandements à l'extérieur. Mais le prophète Ésaïe, dans son premier chapitre, il leur a été envoyé par Dieu avec le « Ainsi parle le Seigneur ». Et vous pouvez le lire. Dieu a toujours pu poser ses mains sur quelqu'un qui n'avait pas peur de dire les choses. Si vous voulez lire Ésaïe à partir du premier chapitre et que Dieu lui a fait dire que leurs sacrifices ne sont pas agréables à Dieu, mais qu'ils sont une mauvaise odeur devant lui. Tous les sacrifices qu'ils ont offerts, là, bien qu'il ait été ordonné par lui de les offrir, mais parce qu'ils en ont fait une tradition et qu'ils n'y étaient pas avec leur cœur, et c'est ainsi que nous avons fait avec la parole de Dieu. Voyez, nous avons fait une tradition, un rituel aujourd'hui, mais nous devons venir et savoir que c'est ainsi parle le Seigneur. Dieu a promis, Dieu se tient à sa parole. Il est plus grand comme sa promesse. Il est fidèle, comme l'a dit Abraham, pour faire ce qu'il a promis. Il est plus que capable de tenir sa parole. Ésaïe a dû leur dire tout cela. Ils l'ont fait sans sincérité. Ils ne l'ont fait que parce que d'autres l'ont fait et parce que Jéhovah l'a exigé. et les mères l'ont fait, et les grands-mères l'ont déjà fait. Aujourd'hui, nous faisons la même chose. On dit aujourd'hui, mon père était déjà, mon grand-père était presbytérien, ou mon père était baptiste, et je suis baptiste, et mon père était pentecôtiste, je suis pentecôtiste. Mais ce n'est pas du tout ça. Nous devons arriver au point où nous devons reconnaître que nous sommes divisés, séparés de Dieu, et que nous devons venir sur la base du sang versé de Jésus-Christ pour faire le lien, que vous soyez méthodiste, baptiste, luthérien, qui que vous soyez, c'est sur ce sol que nous devons nous rencontrer, et c'est là que nous devons rencontrer le Seigneur. C'est là que se trouve le seul fondement commun sur Jésus-Christ, jusqu'à ce que l'Église revienne de toutes les traditions et revienne à la parole de Dieu, et qu'elle naisse de nouveau dans le royaume de Dieu, et non pas une adhésion. Alors la communion sera intime du fond du cœur. Et l'Esprit du Seigneur viendra sur la terre comme les vagues de la mer recouvrent la mer. Quand les hommes pourront oublier leurs différences et se réunir en communion sous le sang, vous ne pouvez pas vous réunir sous les traditions baptistes, les traditions méthodistes ou les traditions pentecôtistes, mais nous pouvons tous nous rencontrer et être en communion par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est le plan original de Dieu. C'est là que se trouve le pardon. C'est là que se trouve la paix. Pas baptiste, pas ceci ou cela dans les traditions, mais là, à la croix, où le sang de Jésus-Christ a coulé, là où nous sommes morts et recréés en Jésus-Christ. Peu importe de quelle assemblée vous venez, nous sommes alors frères, et c'est la voix de Dieu pour nous. Tout le reste est fait par les hommes. Mais le plan original de Dieu pour le pardon est sous le sang de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu pour le faire. Mais leur tradition, autrefois, elle leur faisait obstacle. Ils ont invalidé, annulé la parole de Dieu. Elles ont invalidé, annulé la parole de Dieu. Ils n'avaient pas la foi et ils ont offert leur sacrifice sans foi, sans consécration. Maintenant, posons-nous la question. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Nous ne voulons pas le dire, mais nous devons faire face à la réalité d'une manière ou d'une autre. Quelque chose ne va pas. L'Église devrait être 1 million de kilomètres plus loin. Jésus attend que son Église soit préparée. Son épouse s'est préparée. Nous avons reçu tout l'équipement. Le Saint-Esprit est ici. Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici pour guérir les malades, pour que toutes les choses que Jésus-Christ a faites puissent se reproduire. Et j'ai vu cela se produire par la puissance de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Dieu attend qu'il s'éloigne de toutes les traditions et que Jésus-Christ puisse se manifester dans l'Église du Dieu vivant. Méthodiste, baptiste, presbytérien, quel qu'il soit et qui qu'il soit, qu'ils viennent tous prendre librement l'eau de la vie. Je le crois avec tout ce qui est à moi. Dieu a répandu de cet esprit pour que cela puisse se produire, mais nous avons nos rituels sans sincérité. Nous pensons que c'est notre tradition et puis nous partons sans sincérité dans le cœur. J'ai entendu lors d'une des réunions l'un des frères parlait en Californie. Là-bas, il y avait tellement de gens, et surtout des jeunes. J'ai apprécié le frère pour la position qu'il a prise, ce qui s'était passé là-bas. Bien sûr, il faut l'apprécier. Mais quand les gens ont répondu à l'appel de l'hôtel et sont venus, certains ont mâché du chewing-gum, d'autres se sont cognés, d'autres ont ri. Est-ce ainsi que l'on répond à l'appel de l'hôtel? Vous devez venir saisi par le Saint-Esprit, convaincu. Nous avons besoin d'un rassemblement du Saint-Esprit sur le modèle de la Pentecôte, d'une confession du péché, d'une conviction par le Saint-Esprit. Pas des promesses que nous faisons au Seigneur, mais une expérience que nous faisons. Vous venez simplement dire, Seigneur, je veux être meilleur, je veux ceci, je veux cela. Non, venez sous le sang de Jésus-Christ, sous la réconciliation. Et il doit y avoir de la sincérité. Dieu exige une telle sincérité, car il a donné son Fils, seul engendré, de lui. Comment allons-nous nous en sortir? Juste en, en fraternisant un peu et en rejoignant une assemblée, en disant « me voilà membre », ce n'est pas l'exigence de Dieu. Non. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse et ils récolteront des gerbes. Psaume 126, verset 5. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, des gens qui récoltent des gerbes après les larmes. Je vous ai déjà parlé de la réunion que nous avons eue là-bas avec Billy Graham. Et il a dit, voici la mesure. Il disait, je vais dans une ville et j'ai un réveil. 30 000 se convertissent. Et quand je reviens quelques années plus tard, je n'en trouve pas 20 ou 30 de plus. Et si Paul est allé dans une ville et qu'un seul s'est converti, il en a 30 ou 40 de ce seul. Et Billy Graham a dit, c'est la faute des prédicateurs paresseux. Je l'ai apprécié pour le courage dont il a fait preuve en réprimandant ainsi ses frères prédicateurs. Mais je voulais lui demander, écoute, quel était le prédicateur qui pouvait continuer à s'occuper de celui que Paul avait laissé derrière lui? Paul l'a retiré du monde, il s'est converti et a été rempli de cet esprit. Et le feu de Dieu est venu sur lui. Et là où il allait, il prêchait, car le feu de Dieu brûlait dans son cœur. Aujourd'hui, nous avons besoin de la même puissance du Saint-Esprit et que des hommes et des femmes sortent pour sauver des âmes. Il me revient l'histoire d'un jeune homme qui était entré chez un homme qui possédait un bar et qui lui a dit, écoute, ton panneau est tombé, sors et regarde-le. Et cet homme dit, ce n'est pas possible. Et il sort après avoir décroché son tablier et il dit, écoute, tu as dû te tromper, le panneau est toujours là-haut. Non, dit-il, tu n'as pas regardé le bon panneau. Regarde ici, l'ivrogne là-bas, sur le bord de la route. Il n'est entré que parce que tu avais mis le panneau en haut. Maintenant, il est allongé là-bas. Tu vois ce que tu as fait? Oh, mais si nous voyons maintenant des gens et que nous recevons la puissance de la Pentecôte sous l'influence du Saint-Esprit, alors des miracles et des signes se produisent. Et ce n'est qu'alors que les gens sont sauvés, lorsqu'ils ont été baptisés dans le corps, pas en rejoignant une assemblée. Mais où est la sincérité? Où est la souffrance pour ceux qui sont perdus? Qui ressent de la douleur pour eux? Ils prient, bien sûr, mais sont sans puissance. Ils ont offert leur sacrifice. Ils ont offert les choses toutes selon la loi. Mais savez-vous ce que dit la Bible sur ce qui se passera dans les derniers jours? Dans l'épître à Timothée, il est écrit que les hommes seront orgueilleux, vantards, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ils rejetteront les gens de bien. Ils ont une forme de piété. Mais ils renient la puissance. Retournez-vous, détournez-vous de cela, car c'est l'épée qui pénètre et qui sépare. Mais il y a, comme il est écrit, qu'ils amènent les femmes en captivité. Vous voyez, mais quand la Bible dit que l'Église entre dans la même chose que ce qui était dans la tradition de l'Ancien Testament, nous le voyons à nouveau, une religion comme tradition. Vous dites, oh, cela concerne le communisme. Non, 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 ils ont une forme de piété. Ils vont à l'assemblée, ils appartiennent à une paroisse et ils font tout, mais ils ne vivent pas selon la parole. Il n'y a pas de feu dans leur âme. Ils ne s'intéressent à personne d'autre. Ils laissent tout le monde mourir autour d'eux. Ils pensent que nous sommes sauvés cela, que cela suffit. Ce n'est pas le vrai christianisme. Le vrai christianisme va à la recherche des perdus. Allez chercher les perdus, faites quelque chose. Mais nous restons debout, nous croisons les bras et nous disons, oui, nous sommes sauvés. Et nous voyons des gens, des hommes et des femmes mourir autour de nous et nous ne faisons rien. Et puis nous voyons les femmes, elles vont à l'assemblée avec des vêtements courts, maquillées, dans la rue avec des cigarettes. Et les yeux peints et tout le visage et on ne sait pas à qui elles ressemblent. Et puis elles font partie des assemblées et c'est ce qu'ils appellent le christianisme. Que ferait Paul s'il était ici? Regarde, garderait-il la paix? Dès demain matin, il l'aurait mis en prison parce que son âme aurait été enflammée à la pensée de sortir et de le dire à tous les hommes. Mais aujourd'hui, nous appartenons aux assemblées. Nos traditions, nos coutumes puent devant Dieu. Il n'y a plus rien de vivant en elle. Où est le ainsi? Parle le Seigneur. Où Dieu peut se manifester pour que quelque chose se passe? Les dénominations, elles ont grandi. et sont plus fines qu'elles ne l'ont jamais été. Mais nous serions mieux avec une guitare dans une assemblée de rue, avec un vrai feu de Pentecôte qui brûle dans notre cœur, qu'avec les sièges rembourrés dans lesquels nous nous endormons au service divin. Dieu a un pardon, et ce pardon est en Jésus-Christ. L'éducation, la science et tout le reste n'ont rien à voir avec cela. Sous le sang de l'agneau de Dieu se trouve le pardon et la réconciliation et la communion. C'est la voie préparée par Dieu pour les pécheurs. Ce n'est que là que Dieu nous rencontrera. Prenez les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les presbytériens, qui qu'ils soient, qu'ils viennent tous sous le sang et ils seront frères. Là, il n'y a pas de dispute. Non, ils verront tout de la même manière. Mais si un méthodiste et un baptiste se disputent à propos du baptême, ou si les gens de la Trinité se disputent avec les gens de l'unité, leurs cheveux se dressent sur leur tête. C'est ainsi qu'ils se disputent. Mais quand ils prient ensemble, tout va bien. Oui, comme l'a dit le chantre, Christ est la chose la plus précieuse et le restera jusqu'à ce que je meure. Oui, jusqu'à ce que je sois mis au tombeau et que je ne puisse plus parler. Voyez, le sang de Jésus-Christ fait du méthodiste, du luthérien, du presbytérien, quel qu'il soit, il fait de nous des frères. Voyez, le même esprit de Dieu est en nous. Nous ne sommes alors plus des querelleurs, mais des frères. Et nous voyons et nous croyons chaque parole qui se trouve dans la Bible. Comment l'Esprit Saint qui a écrit la Bible peut-il renier une parole de Dieu? Comment l'Esprit de Dieu peut-il habiter en nous et ensuite nier que cette même puissance de l'Esprit est pour nous aujourd'hui? Pierre a dit, c'est pour vous et pour vos enfants que cette promesse est faite en aussi grand nombre que Dieu le Seigneur les appellera. Et aujourd'hui, nous disons autre chose. Mais l'Écriture Sainte dit ici, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés. Il leur a déjà donné la gloire. Romains 8, verset 30. Jésus a dit, « Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. » N'avons-nous seulement qu'une sensation? Venons-nous uniquement parce que nous ne voulons pas aller en enfer? Ou venons-nous parce que nous aimons Dieu qui a donné son Fils, son engendré par lui, pour que nous ayons la vie éternelle? Nous venons parce qu'il a offert le sacrifice de l'amour. Dieu déteste une religion sans puissance. Une religion sans puissance. Que devons-nous faire maintenant? Regardez, chaque fois que Dieu a fait quelque chose dans la Bible, que ce soit à l'époque de la Réformation ou dans les réveils qui ont suivi, il y a toujours eu quelque chose de surnaturel, des miracles et des signes. Regardez ce qui s'est passé à travers Luther, à travers Wesley, à travers Sinkey, Knox, Finney et qui ils étaient tous. Partout, la puissance de Dieu s'est manifestée. Là où Dieu se révèle, quelque chose de surnaturel se produit. Cela doit être là. Regardez, quand les pharisiens sont venus voir Jésus. Certes, autefois, extérieurement, les sacrificateurs étaient très agréables. Ils viennent dans votre maison à la naissance de l'enfant. Quand il se passe quelque chose, ils sont toujours si aimables et si serviables. Quand le besoin se fait sentir, quand vous vous disputez avec vos voisins, le prêtre ou le sacrificateur vient et il s'occupe de tout. Et ils pouvaient tous dire, nous savons qui est le sacrificateur, qui est son père et sa mère, mais qui est ce Jésus de Nazareth? De quelle école vient-il? De quelle organisation vient-il? Que fait-il donc? Il n'apporte que la désunion ici. Et les sacrificateurs disaient, celui-là, ce Jésus-là, il est du diable. Voyez, qu'est-ce que c'était? Mais Jésus entra dans le temple et les regarda avec colère à cause des sacrifices que Jéhovah exigeait. Il renversa tout et dit, « Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. » Nous avons besoin d'un nettoyage dans nos assemblées modernes aujourd'hui. Que les tables soient renversées et que les chaises volent. C'est d'un tel nettoyage dont nous avons besoin. C'est vrai, la même chose se produirait. Voyez, Jésus a toujours été conforme à l'Écriture. Il était la parole. Il n'avait pas besoin d'écrire. Il était la parole vivante. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Comment les hommes d'aujourd'hui, comment peuvent-ils passer à côté? Jésus a pourtant promis que ses signes accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. Et l'Esprit Saint se répand sur celui qui vient à Dieu et qui est appelé par Dieu. Qui niera la parole et dira que l'Esprit Saint est en lui? L'Esprit Saint confirmera chaque parole par un amen. Oh frère, nos systèmes de formation nous ont éloignés de Dieu. et les dénominations ont séparé les hommes les uns des autres et de Christ. Mais si vous continuez ainsi, où irez-vous? Ce ne sont que des feuilles de figuier dont vous voulez vous vêtir. Juste le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le sceau du Saint-Esprit manifestera une église pleine de puissance, pas pleine de religion, mais pleine de puissance. Bien sûr, c'est la puissance de Dieu lui-même qui sauve le pécheur. C'est la puissance de Dieu par laquelle les miracles et les signes se produisent, comme Jésus l'a promis. Voyez, autrefois, ils ont cru la parole de Dieu et ils ont atteint et réalisé les choses qui se produisent. Si vous faites la même chose se produira. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas besoin d'une religion sans puissance. Dieu veut que ces choses se produisent. Il veut témoigner qu'il est vivant. Notre espérance réside dans la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce vrai? Notre espérance de la vie est dans sa résurrection, dans la résurrection de Jésus-Christ. Voyez, Dieu veut agir dans son Église. Jésus a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. » Jean 14, verset 12, « Ce que je fais, vous le ferez, et même de plus grandes choses, car je vais au Père. » Eh bien, les assemblées essaient de nier cela, de s'en éloigner, d'avoir plus de membres, de devenir plus célèbre. Je vais vous demander, si Dieu essaie de faire quelque chose dans son Église, voyez, Dieu fait ces choses par sa parole et les communautés religieuses veulent le faire par leur credo de foi. Sortez avec vos credos, entrez avec la parole, avec le sang et avec l'esprit. Et si alors il y a des cœurs sincères et que la main de Dieu peut descendre et que nous confessons nos perversions et nos péchés, alors la voix de Dieu témoignera. Mais les communautés religieuses le veulent par leur credo de foi. Dieu, lui, veut le faire par la puissance du sang et par la puissance de la parole. Voyez, vous devez rejeter tout le reste. Mais si vous rejetez l'Esprit Saint, vous suivez les traditions. Et vous les acceptez. Voyez, vous devez voir la vérité avant d'accepter l'erreur. Et si vous êtes chrétien, vous devez passer outre la promesse de Dieu avant d'entrer dans l'erreur. Mais si vous savez que ceci est la parole, ne dites pas « c'était pour un autre temps ». C'est pour aujourd'hui. Christ est la parole. Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et s'est faite chair. » Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque promesse de la parole sont vraies. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Où est la foi par laquelle ces choses sont mises en mouvement? Nous devons venir sous le sang, c'est certain. Et comme Esaïe avait été envoyé et avait dit à Israël qu'il s'était souillé et rendu coupable, mais Dieu leur a parlé par l'intermédiaire d'un grand prophète. Mais ensuite, il leur a envoyé Jean-Baptiste. Et il leur a indiqué l'agneau qui n'était pas seulement envoyé, l'agneau de Dieu qui n'était pas seulement envoyé pour Israël, mais pour toute l'humanité. Et cet agneau de Dieu est pour tous ceux qui veulent venir à lui. Et ensuite, l'agneau a été crucifié. Son sang a été versé. Et son esprit est revenu. Eh bien, quand les bêtes mouraient dans l'Ancien Testament, l'esprit ne pouvait pas revenir. Mais autrefois, c'était seulement pour Israël. Mais maintenant, l'agneau de Dieu a versé son sang pour toutes les nations. Et l'Esprit Saint revient sur l'adorateur. C'est ce que Dieu exige. C'est ce que Dieu exige autrefois. C'est ce que Dieu exigeait autrefois. C'est ce que Dieu exige aujourd'hui. Si donc quelqu'un ressent aujourd'hui le poids du péché et que vous sachiez que vous avez mal agi, il y a un pardon. Écoutez, il y a le pardon par l'agneau de Dieu, par son sang versé. Croyez-vous cela? Par le sang de l'agneau. On m'a raconté une histoire qui m'a aidé. C'était l'histoire d'un garçon qui avait été kidnappé. Et je ne sais pas exactement dans quel livre, mais en tout cas dans le contexte de la Sainte Patrick. Et son nom était en fait Sasquatch. Et ce garçon a été kidnappé et il devait partir avec quelqu'un qui avait un élevage de porcs. Et alors qu'ils étaient sur ce bateau, ce vieux capitaine est tombé très malade et était en train de mourir. Là, sur le lac, et ce vieil homme avec la barbe, couché là, il a encore levé la main autant qu'il le pouvait et a demandé à ceux qui étaient dans le bateau, « Y a-t-il quelqu'un qui a une Bible avec lui ?» Il a répondu, « Je suis en train de mourir. Quand j'étais jeune, j'étais chrétien et j'ai reçu une éducation chrétienne, mais maintenant je me suis éloigné de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une Bible ?» Un petit garçon se leva et dit, « J'ai une Bible, je suis chrétien. » Je la porte toujours avec moi. Il a dit, fils, viens ici. Il demanda, est-ce que tu portes toujours la Bible? Et oui, dit-il, ma mère et mon père étaient convertis. J'ai consacré ma vie au Christ. Il était encore un garçon, un jeune garçon, et il a dit, où que j'aille, j'ai cette Bible avec moi. Je la porte sur mon cœur. Et il a dit, mon fils, lis-moi quelque chose dans la Bible avant que je meure, avant que je ne meure. Et il ouvrit Ésaïe 53 et il lut. Il était blessé à cause de nos transgressions. Il était frappé à cause de nos péchés. Le châtiment avait été mis sur lui pour notre paix. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le garçon s'arrêta de lire et le vieux dit, « Tu ne veux pas continuer à lire ?» Non, dit-il, « Ce n'est pas nécessaire. » Mais il a demandé à nouveau de continuer à lire. Et ce jeune homme a dit au vieux, « Tu sais comment ma mère m'a lu ce passage de la Bible. Voilà, c'est comme ça qu'elle l'a lu. Il était blessé pour Willie Pruitt. Il était frappé pour Willie Pruitt, pour ses péchés. Et le châtiment de Willie Pruitt était sur lui. Et par ses meurtrissures, Willie Pruitt est guéri. Oh, dit le vieil homme, j'aime ça. Oh, dit-il, si seulement mon nom pouvait y être lu aussi. Et il dit, mon garçon, peux-tu aussi lire mon nom là? Et il fut élu. Il était blessé pour John Cox. Et il était frappé pour John Cox, pour son péché. Et le châtiment de John Cox était sur lui. Et par ses meurtrissures, John Cox est guéri. Et les larmes ont coulé et il a dit, va me chercher mes vêtements. Jésus-Christ m'a guéri. Je suis sauvé. Oh, mes amis. Si seulement vous pouviez y lire votre nom, si seulement je pouvais y mettre mon nom. Il était blessé pour les transgressions de William Branham. Il était frappé pour l'assemblée, par ceci ou cela, mais il était blessé pour ma faute. La punition pour moi était sur lui. Le châtiment pour moi était sur lui. Et par ses meurtrissures, William Branham est guéri. Et aussi seulement nous pouvions lire notre nom ici, il se passerait quelque chose. Croyez que vous êtes impliqués pour le recevoir. Quand nous reconnaissons qu'il a été meurtri pour nous, pour notre transgression, frappé pour notre péché, et nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, que nous sommes sauvés par le sacrifice qu'il a offert, et que nous n'avons plus de désir de péché, mais que nous sommes purifiés de toute tradition morte. Lorsque nous venons sous le sang, toutes les traditions qui étaient mortes sont terminées. Il nous a amenés à la vie. Toute votre conscience est purifiée de toutes les œuvres mortes. Voyez, quand vous faites cela, vous oubliez que vous êtes baptiste, méthodiste ou pentecôtiste, quoi que vous puissiez être, vous oubliez toutes les traditions mortes et vous venez sous le sang. Venez y lire votre nom, puis venez à la table où l'on distribue le souper. Et alors vous verrez, pour qui c'est? Si vous pouvez exclure votre frère, vous ne pouvez pas le faire. Non, quelque chose en vous ne vous le permettra pas. Votre nom est impliqué. C'est fait pour vous. Vous êtes purifié. Vous êtes racheté. Voyez, comme le larron sur la croix, il a dit, souviens-toi de moi. Quoi que vous soyez, venez à lui et reconnaissez. Il était blessé pour moi. Il était frappé pour moi. Mon châtiment était sur lui. Baptiste, pentecôtiste, qui que vous soyez, c'est pour nous que cela a été fait. Mon nom, ton nom, qui que vous soyez. Croyons tous ce que dit la parole et non ce que disent les credos et ensemble, nous nous approchons du Seigneur comme des frères. Tout le reste sera balayé, toutes les traditions mortes. Alors, plus personne ne peut vous retenir, que ce soit le presbytérium ou quoi que ce soit, l'évêque ou le pape. Rien ne vous retient et ne vous souille plus. Et ne vous souille plus. Vous avez désormais trouvé votre place parmi vos frères. Vous avez le pardon sous la même réconciliation. Et vous êtes maintenant frères. Et vous êtes réunis comme des frères, unis les uns aux autres et avec Dieu. Celui qui est proche de Dieu est proche de ses frères. Comment pouvez-vous haïr votre frère que vous voyez et aimer Dieu que vous ne voyez pas? Cela n'est pas possible. Vous êtes des menteurs et la vérité n'est pas en vous. 1 Jean 4, verset 20. Mais si nous comprenons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, alors nous sommes frères, il n'y a plus de querelle et les différences ne signifient rien pour nous. Nous arrivons à un terrain commun. Je me souviens qu'il y a peu de temps, je suis passé par la région où l'on faisait paître les grands troupeaux, où les cowboys faisaient paître un grand nombre de bêtes. Chacun mettait sa propre marque sur ses bêtes, mais ce qui était important, ce n'était pas cette marque, mais le texte sanguin qui prouvait qu'il s'agissait de la même race de bétail. Aujourd'hui, on demande, tu es méthodiste, tu es baptiste, tu es ceci ou cela, toutes ces choses par lesquelles on était marqué au fer rouge. Non, nous sommes chrétiens, nous avons accepté le sang de Jésus-Christ, nous sommes sous le sang. Et tous les frères et toutes les sœurs sous le sang sont mes frères, sont mes sœurs dans une profonde sincérité devant la face de Dieu. Que ce soit un prêtre ou un prédicateur, qui que nous soyons, nous posons nos mains sur l'offrande et nous disons, mon Dieu, nous sommes coupables, nous ne sommes pas dignes du sacrifice que tu as fait là, mais nous sommes comme des frères et nous venons maintenant. Toutes les disputes sont terminées. Nous sommes sincères et avons reçu le pardon purifié du péché, libéré des traditions. Tout ce qui est ancien a disparu. Tout est devenu nouveau. Qu'il s'agisse des méthodistes, des baptistes ou des presbytériens, tout est fini. Tout s'est transformé en communion. Et c'est seulement ici que la communion est sous le sang. Et j'ai vu des presbytériens dans les réunions des hommes d'affaires du plein évangile. Un presbytérien en particulier, il a poussé des cris de joie. Combien connaissent James Bourne, un presbytérien extraordinaire. Ici, il a parlé en langue et dansé dans l'esprit. Un des hommes les plus connus de la communauté et religieuse presbytérienne des États-Unis. Des luthériens et d'autres sont venus sous le sang et ont fait l'expérience avec le Seigneur. Il n'y a pas de marquage au fer rouge ici. Nous sommes un, nous sommes chrétiens. Nous avons tout en commun. Oui. Il n'y a pas si longtemps, permettez-moi de conclure en disant qu'il y avait là un homme et une femme, deux personnes qui voulaient divorcer. Ils sont d'abord allés voir un psychiatre pour savoir s'ils pouvaient encore faire quelque chose pour les réunir. Ils ont fait tout ce qu'il était possible de faire pour rester ensemble, mais à chaque fois, Ça ne marchait pas. Ils ne pouvaient même plus se voir l'un l'autre. Puis ils ont décidé de divorcer, sont allés voir l'avocat. Et il a dit qu'avant de prononcer le divorce, ils avaient décidé de tout partager, de savoir qui aurait quoi la maison. Et donc ils sont allés tous les deux. Ils sont entrés dans la maison et d'abord dans le salon. Et la femme a dit, je prends ça. Et il a dit, je prends ça. Et puis ils se sont disputés. Et puis, ça a duré un bon moment. Et puis, il a dit, je te donne ceci si tu me donnes cela. Et ça a continué comme ça dans tous les sens. Ils ont traversé les différentes pièces, la cuisine ici et là, et se sont distribués leurs affaires. Mais ensuite, ils sont montés au grenier, en haut, sur le sol. Il y avait encore différentes choses. Et là aussi, ils se sont distribués. Chacun a reçu quelque chose. Et puis, tous deux ont vu quelque chose. Ils l'ont attrapé et se sont regardés. Et c'était la paire de chaussures blanches qui appartenait à leur bébé qui était mort. C'était une partie des deux. Et là, avec ses mains réunies au-dessus des chaussures, à qui était-elle? Cela leur appartenait à tous les deux. Ils avaient quelque chose en commun. Et en quelques minutes, les deux se sont regardés. et ils ont pleuré. Ils ont pu se distribuer tout le reste. Mais maintenant, ils en sont arrivés au point qu'ils avaient en commun l'enfant qui était déjà au ciel. Et puis la dispute a pris fin. Et en quelques minutes, ils étaient dans les bras l'un de l'autre et le divorce était terminé. Ils étaient en paix. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous adhériez à une autre assemblée. Nous avons quelque chose en commun, Jésus-Christ. Nous l'avons en commun. Il est notre tout. Nous ne pouvons pas tous être baptistes. Nous ne pouvons pas tous être unitaires ou trinitaires. Mais nous avons une chose en commun. C'est le pardon. Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ, son Fils. Nous avons tout en lui. Mais c'est la première chose que nous devons accepter. Une fois que nous avons accepté ce pardon que Dieu nous a donné, pas par la formation, non par la dénomination, mais par le sang de Jésus-Christ. Nous venons tous à la croix, nous pouvons être un et avoir tout en commun. Croyez-vous cela? Inclinons nos têtes pour prier. Avec nos têtes courbées et aussi les cœurs que nous voulons également courber et dire « Oh Seigneur, le cœur incliné, levons-nous tous pour cela. » Que nous nous posions la question « Suis-je dans le vrai? Suis-je dans le faux? » Que le Saint-Esprit nous scrute. Si nous sommes là, si nous ne sommes pas là où nous devons être, où nous devons être, combien voudrais que je me souvienne d'eux dans la prière? Nous voulons tous être sous le sang, sous l'expiation, sous la réconciliation, et alors nous serons purifiés de toutes les choses du monde. Combien veulent que je prie pour eux? Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Et que nous disions, Seigneur, souviens-toi de moi. Nous n'avons plus beaucoup de jours devant nous ici sur terre. Vous dites que je suis jeune. Non, ma sœur, mon frère, il y aura encore beaucoup de jeunes qui mourront aujourd'hui. Non, nous ne savons pas quand nous partirons. Diras-tu maintenant en levant la main, Seigneur, mon Dieu, j'accepte le pardon par le sang de Jésus-Christ. Que le signe d'amour du haut en vertu du sang revienne sur moi, l'Esprit Saint. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je veux le recevoir. Je veux faire cette expérience du baptême de cet esprit pour avoir la certitude que mes péchés sont pardonnés. Le monde est passé. Je suis devenu une nouvelle création. Oh Dieu, je ne lève pas la main vers Frère Branham, mais vers toi. Tu es dans mon cœur. Je lève les yeux vers toi. Oh Dieu, je veux avoir le signe que le sang a été appliqué. Levez les mains si vous voulez que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez méthodiste, baptiste, quoi que vous soyez, c'est pour tout le monde. Je ne dis rien contre les assemblées. Tout va bien. Tout est en ordre. Mais cela ne vous sauve pas. Non. Il faut que ce soit le pardon de Dieu par sa grâce. Et cela n'est pas représenté dans une assemblée, mais uniquement par le sang de Jésus-Christ. C'est votre sacrifice offert à votre place pour vous. Et vous pouvez dire, j'accepte ce sacrifice offert à ma place, que Dieu ait pitié de moi. Il y a peut-être ici des membres d'assemblée qui font déjà partie de l'Église. En toute sincérité, je crois que c'est le cas, que vous êtes sincère. Mais vous diriez, frère Branham, mon cœur n'est pas encore complètement purifié de tout. Peut-être que si quelqu'un dit quelque chose contre l'assemblée dans laquelle je suis, oh, je suis tout de suite irrité. Et je n'ai pas pu le supporter. Mais je veux maintenant avoir tout ce que Dieu veut me donner. Levez vos mains. Que Dieu vous bénisse tous. C'est très bien. Je veux accepter tout ce que Dieu a dit et comme il a dit dans la Bible. Je veux que le sang de Jésus-Christ vienne sur moi. Alors le signe doit se répandre sur vous. Et le Saint-Esprit est le signe que le sang a été appliqué. Vous savez ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ce qui s'est passé à Golgotha a été confirmé à la Pentecôte. Et quand le même esprit vient sur les hommes, il en est de même pour eux. Comme dans Actes chapitre 2, Pierre a dit, la promesse est faite à vous et à vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. C'est une promesse valable. 10 cents, c'est 10 cents. 10 centimes, c'est 10 centimes. Toujours et rien d'autre. Et 25 centimes, c'est 25 centimes. Et la maison est une maison. Voici, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte. le même aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore eu cette expérience, acceptez-la maintenant, pendant que nous prions. Notre Père Céleste, nous savons que le soleil s'approche rapidement du couchant. Le temps touche à sa fin. Un jour, la voix de l'archange se fera entendre lorsqu'il sortira de l'éternité et la trompette de Dieu retentira. Chaque femme, chaque homme répondra pour ce que nous savions être vrai de la parole de Dieu. Seigneur, il doit y avoir un critère que tu as sur la terre selon lequel nous serons jugés et nous ne pouvons pas prendre le critère de nos communautés religieuses ou dénominations. Nous passerions à côté et manquerions le but. C'est pourquoi nous serions confus et ne saurions pas quoi faire. Mais c'est un critère, il y a un critère, c'est ta parole. Et ta parole dit, à moins que quelqu'un ne naisse de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Jean chapitre 3, il doit d'abord le recevoir par la foi, naître de nouveau, pour ensuite le comprendre et y avoir part. Nous prions aujourd'hui pour que toutes les mains levées dans tout le bâtiment, les hommes d'affaires de la ville et les femmes, les filles et les garçons, tous ceux qui sont rassemblés ici, je pense qu'en toute sincérité, ils ont levé les mains. Ils n'auraient pas pu les lever à moins qu'il y ait une conviction en eux. Et l'Esprit Saint l'a fait en eux. Et ils sont convaincus qu'ils veulent sortir de toute perversité et être justes. Ô grand Créateur, un jour ils devront te rencontrer. Et maintenant ils sont sincères. Et j'interviens pour eux tous. Et je te fais confiance aujourd'hui au Seigneur pour qu'aucune main levée, qu'aucun d'entre eux ne se repose avant que le Saint-Esprit n'ait rempli leur vie. Je revendique pour eux la récompense de la victoire de ce que tu as fait à Golgotha en Jésus-Christ. Seigneur, sauve les perdus, remplis d'Esprit Saint ceux qui ont accepté Christ, remplis leur âme, leurs âmes. Accepte-toi même la gloire qui en découle. Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. La foi vient en écoutant et l'écoute vient par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Et la parole de Dieu est prêchée et la foi vient par elle. Et ils ont été attirés maintenant car la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a rappelés. Et ceux qu'il a appelés, il leur a donné la gloire à venir. C'est à eux qu'il a donné la vie éternelle au commencement, avant que le monde soit écrit leur nom dans le livre de la vie de l'agneau. Et dans le livre de vie de l'agneau. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit les a appelés et ils ont levé les mains. Seigneur, donne-leur la vie éternelle. Je te le demande pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne sur eux pour qu'ils soient circoncis de toute œuvre morte dans leur cœur. Donne-leur un pardon libre et qu'ils sortent de ce jour, qu'ils sortent à l'heure des ténèbres comme au jour de Sodome, quand les femmes maquillées, l'immoralité et tout le reste étaient dans le pays de la nation. Oh Dieu, puissent les hommes et les femmes sortir d'ici. Puisse l'Esprit Saint envoyer littéralement sur eux le feu saint de l'Esprit Saint, afin qu'ils soient remplis d'Esprit Saint au point d'aborder tout pécheur qu'ils rencontrent. Oh Dieu, accorde-le Seigneur, afin que d'autres reçoivent encore le pardon. Fais-le avec les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, tous, ils t'appartiennent. Je te les remets et je te prie de le leur accorder au nom de Jésus-Christ. Amen.